Et le coup d'envoi de Chine-Thaïlande, ce sera à midi, temps universel, tout à l'heure. Vous retrouvez tout de suite Emmanuel Bastide et ses 8 milliards de voisins sur RFI.
Merci beaucoup RFI pour ce journal. Vous écoutez La Clé des Ondes, il est aussi midi 10 à Bordeaux et c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on va parler de la mobilisation d'enseignants, de parents d'élèves qui dénoncent la situation de centaines d'enfants que l'État laisse dormir à la rue à Bordeaux. On entendra le programme du festival Chahut qui commence demain. Et puis les clés de l'écho nous seront données par l'avocat Bruno Bouillet. Il sera question de la surveillance par drone. Tout de suite, on commence avec quelques infos complémentaires et cette question, qui sont les riches ? L'Observatoire des inégalités, qui est une association constituée notamment de chercheurs, a rendu hier son rapport annuel sur les riches en France. Pour l'Observatoire, être riche aujourd'hui, c'est gagner plus de 3 860 euros par mois pour une personne seule, ce qui représente le double du niveau de vie médian, niveau de vie médian qui est à 1 930 euros par mois. Ça donne aussi un seuil à 5 018 euros par mois pour une famille monoparentale, une famille riche donc monoparentale, 5 790 euros par mois pour un couple sans enfant, ou encore 9 650 pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans. Aujourd'hui, en France, il y a 4,7 millions de personnes qui sont au-dessus de ce seuil de richesse, soit 7,4% de la population. C'est moins qu'en 2011 où ils étaient 5,5 millions seulement, mais ils sont plus riches qu'avant. Les 1% les plus riches captaient 7,7% de l'ensemble des revenus à cette époque. Aujourd'hui, ils s'accaparent 12,6% du total des revenus. Rue 89 Bordeaux est allé voir où vivent ces riches à Bordeaux. Et bien sans surprise, c'est le quartier de la Villa Primrose et du Parc Bordelais qui est en première place. Les 10% les plus riches d'habitants dans ce quartier touchent au moins 6 723 euros par an. Puis vient le quartier de l'Hôtel de Ville et des Quinconces, Saint-Seurin, Fondaudège et Saint-Jeunesse. Au niveau départemental, ce sont les communes de Bouliac, Latraine, Arcachon et Lège-Cap-Ferré qui rassemblent les populations les plus riches. Et encore, ces chiffres ne prennent en compte que les revenus et pas le patrimoine, alors qu'on sait qu'une très importante partie de la richesse en France, elle vient justement de ce patrimoine. Et du patrimoine, eux n'en ont pas d'autre que leur force de travail. Ce sont les dockers du port de Bordeaux qui sont en grève en ce moment. Et ils annoncent reconduire ce mouvement à 4 reprises au cours du mois de juin, afin de mettre le port à l'arrêt. La fédération CGT des dockers demande à revenir sur la réforme des retraites qui les oblige à travailler 2 années de plus. Le syndicat revendique également la reconnaissance d'une 5e année de pénibilité liée à leur travail, ainsi qu'une enquête pour déterminer les risques liés à la présence d'amiante dans les installations portuaires. On va maintenant dans le Tarn, où un nouveau week-end de mobilisation contre le projet d'autoroute A69 a lieu à partir de demain. Ça s'appelle Roue Libre et c'est organisé par les Soulèvements de la Terre, La Voie est Libre, Extinction Rébellion et la ZAD de l'A69. Au programme dès demain vendredi, des tables rondes, balades et projections sur la question des routes et des espaces naturels qu'elles détruisent. Il y aura aussi des concerts en soirée. Samedi aura lieu une manifaction à partir de 13h et puis dimanche, plusieurs assemblées pour discuter de la suite de cette lutte et des autres luttes, ainsi que des spectacles et des balades en vélo. Pour avoir toutes les infos, notamment pratiques et aussi les précautions de sécurité, il faut se rendre sur le site lvel.fr ou taper La Voie est libre dans un moteur de recherche. Et il faut aussi se connecter sur les pages Telegram de l'événement. Les liens sont sur le site. On signale qu'avant-hier, le ministre de l'Intérieur Darmanin a annoncé l'interdiction de cette manifestation. La semaine dernière, 11 opposants et opposantes ont été convoqués en gendarmerie et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés de complicité de dégradation de biens et violence sur gendarmes. Mais selon leur avocate Claire Dujardin, ces convocations ne visent pas à obtenir réellement des éléments constitutifs des infractions qu'on leur reproche, mais surtout à intimider et à mettre les opposants sous pression. Donc voilà, on rappelle ce rendez-vous, il aura lieu à partir de demain et pendant tout le week-end dans le Tarn. Midi 14 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance et on va tout de suite passer un coup de fil à un camarade pour revenir sur un autre camarade. Il s'agit de Georges Méline qui nous a quittés. On a appris son décès hier et on est pour en parler par téléphone avec Jacques. Salut Jacques.
Oui, bonjour.
Jacques Rimbaud, notamment du NPA, du Nouveau Parti Anticapitaliste en Gironde et à Bordeaux. Alors, tu as bien connu Georges, dont on le connaissait à la Clé des Ondes, notamment parce qu'il a participé pendant longtemps à l'émission Acétone. Peut-être revenir un peu sur qui il était. Toi, comment tu l'as connu, Georges, Jacques ?
Eh bien, Georges, justement, je l'ai connu dans l'organisation Cégironde, l'organisation de lutte contre le chômage et la précarité. Et bon, mais comme nous étions plusieurs militants du NPA à cette époque à AC, de fait, au fil des discussions, voilà, il a été convaincu de nous rejoindre aussi sur ce terrain politique, c'est-à-dire, en tant que militant anticapitaliste, internationaliste, et Georges était aussi un fervent militant de la cause féministe. Et d'ailleurs, on peut le voir dans tous les messages qui circulent là depuis hier. Autant il était discret, autant il était vraiment connu et reconnu dans le milieu militant, que ce soit par rapport à AC, par rapport au mouvement féministe, par rapport à toutes les luttes et tous les combats qu'on a pu mener avec le NPA et d'autres. Et dans ton mouvement.
Effectivement, il a participé ces derniers temps beaucoup à l'Assemblée Générale Féministe de Bordeaux et de Gironde. Oui. Tu l'as dit, quelqu'un de réservé, mais qu'est-ce qu'on peut dire de lui et peut-être de l'humanité qui transpirait quand on le rencontrait dans les manifs ou ailleurs ?
Ah oui, non, mais ça c'est vraiment sa qualité qui était reconnue d'ailleurs partout. D'abord, c'était un militant sincère, fervent, sérieux. Et surtout, il n'était pas du tout sectaire, ce qui est pourtant un défaut très répandu, malheureusement, dans le milieu militant. Il était vraiment ouvert, il était gentil. Ça, et c'est pas un défaut de dire ça, parce que des fois...
Et ça nous manque même dans le milieu militant.
Voilà, on a presque honte de dire qu'on est gentil, mais non, il était profondément gentil, c'est-à-dire profondément humain. Quand il parlait de combattre la société pour mettre en place un monde meilleur, c'était pas que des mots, c'était vraiment une réalité vraiment humaine, quoi. Et en plus, ce qui montre bien le personnage quand même, c'est que d'ailleurs il s'en cachait pas, il avait une grosse maladie psychique et il avait quand même un gros combat mené justement dans sa vie elle-même qui était pas facile, mais d'arriver quand même à maintenir son combat pour les autres, pour changer le monde, ça montre quand même la qualité de Georges, quoi. Ses qualités humaines.
Qu'est-ce qu'on a appris de son décès de manière assez brutale hier? Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui lui est arrivé, Jacques?
Déjà qu'il m'avait contacté il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, il m'a dit, parce que je ne t'ai pas vu depuis un petit moment, quelques semaines, je lui ai dit, écoute, passe au Capu, on diffuse le tract, ce qu'on a fait avec lui pendant des années d'ailleurs. Et dès qu'il est arrivé, j'ai compris qu'il avait un problème. Il m'a dit, il avait un cancer du pancréas, visiblement très très avancé, avec le foie déjà touché. Donc j'ai bien compris que c'était grave. Mais là, j'ai appris que hier matin, qu'il était hospitalisé, en fait. Lundi matin. Donc je lui ai envoyé un SMS pour lui demander, est-ce qu'il aimerait que je passe, etc., le voir, avec un autre camarade de Bordeaux, d'ailleurs. Et il m'a juste répondu à un SMS, je te dis ça. Et en fin de compte, c'était lundi matin, et a priori, il serait mort dans la nuit de lundi au mardi, ou mardi, quoi. Et donc, c'était très, très rapide. C'est effectivement, en quelques jours, quoi, c'était foudroyant, quoi.
Et est-ce qu'on sait quelque chose de ses obsèques et de s'il y a des choses à faire passer ou pas comme annonce à ce niveau-là?
Alors pour ses obsèques, c'est un peu compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup, on n'avait pas de lien avec sa famille. Alors, on a réussi par divers canaux à avoir le lien. Donc on va voir son fils qui va nous contacter parce qu'il avait un fils, une femme avec qui il était divorcé, que l'on ne connaît pas. Moi j'ai eu une cousine à lui éloignée au téléphone ce matin qui m'a confirmé que la cérémonie aurait lieu mardi à Bordeaux, enfin qu'à Bordeaux en Gironde, mais ça veut dire l'heure et le lieu. Ce sera au crématorium à Mérignac, sûrement.
On fera passer les infos si c'est nécessaire, si c'est souhaité aussi d'ici là sur notre antenne.
Dès qu'on a des nouvelles, en tout cas, on les fait circuler partout dans le milieu militant, bien entendu, pour informer, quoi.
Très bien, merci beaucoup Jacques Rimbaud du NPA pour d'être revenu avec nous sur Georges Méline, voilà, qui nous a quittés cette semaine. Merci beaucoup à toi Jacques et à bientôt.
C'est moi qui vous remercie d'avoir permis de dire quelques mots sur Georges.
Merci.
Merci bien.
Midi 20 sur la Clé des Ondes, c'est toujours le plat de résistance et on parle maintenant d'une autre actualité de ce jour. Le jour à l'école, la nuit à la rue sur le sort de ces enfants aujourd'hui scolarisés mais SDF à Bordeaux. Une mobilisation qui a lieu aujourd'hui à l'initiative du réseau Éducation sans frontières de la Gironde, de parents d'élèves et d'enseignants. On écoute tout de suite Gérard Clabé de RESF, également du guide du Bordeaux colonial sur notre antenne qu'on a interviewé un peu plus tôt dans la matinée. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Alors, ça fait déjà quelques mois, tu avais déjà reçu pour parler de la situation des enfants à la rue, même au niveau national, au niveau de la France. Là, vous faites une nouvelle mobilisation aujourd'hui, ce 6 juin, pour dénoncer la situation des enfants à la rue, le jour à l'école, la nuit à la rue. Pourquoi cette mobilisation aujourd'hui, Gérard ?
Eh bien, parce que la situation ne s'est pas arrangée, loin de là. En effet, la dernière fois, c'était au mois de novembre, c'était pour la journée des enfants. On était devant la préfecture. Et depuis, la situation s'est fortement dégradée. Et dans les écoles en particulier, les enseignants, les parents d'élèves font le constat de cette dégradation terrible. Et c'est spontanément dans les écoles sur Bordeaux, Bordeaux Métropole, que des mobilisations ont commencé au mois d'avril dernier, notamment avec l'école des menus à Bordeaux.
C'est-à-dire que la mobilisation donc, qui vient au départ de vous, Réseau Éducation Sans Frontières, elle s'élargit à des enseignants qui se rendent de plus en plus compte de cette réalité-là, d'enfants qui sont en classe le jour et dont ils se rendent compte que la nuit, en fait, ils dorment dehors et que, ben, j'imagine, c'est préjudiciable pour leur développement, pour leur apprentissage, pour leur vie en général. Et ces enseignants-là, du coup, ont envie de se mobiliser eux aussi.
Exactement. Les enseignants et les parents d'élèves. C'est la communauté scolaire, en fait, qui réagit parce qu'ils sont en première ligne. Ils voient ces enfants et ils confondent le constat, tu viens de le dire, qu'il n'y a pas de scolarisation, harmonieuse possible quand on est un enfant d'une famille qui vit à la rue ou dans un squat où il n'y a pas de chauffage, pas d'eau, lorsqu'on vit dans des voitures aussi, hein, parce que la réalité, c'est ça, hein, la réalité d'enfants qui dorment dans des voitures sur des parkings.
Donc il y a eu déjà plusieurs écoles, plusieurs endroits où des enseignants ont sorti spontanément des banderoles, c'est ça, devant les écoles, notamment on l'avait vu rue des Menus dans le quartier Saint-Michel, tu disais aussi dans l'école Nuyens, rive droite. Aujourd'hui, oui. L'idée, c'est qu'il y a de nouvelles écoles, de nouveaux enseignants qui rejoignent cette mobilisation.
Voilà, absolument. Nous, au Réseau Éducation Sans Frontières, on est là un peu pour représenter ces écoles mobilisées et on a fait la proposition d'une journée, celle-ci, celle du 6 juin, aujourd'hui, pour que des banderoles soient installées devant les écoles un petit peu partout sur Bordeaux Métropole, ce qui est le cas. Hein, nous avons des remontées désormais qui nous font penser qu'il y aura des dizaines d'écoles avec ces banderoles, hein, ces banderoles qui ont le slogan simple et terrible, des enfants et des élèves à l'école le jour et à la rue la nuit.
En novembre dernier, on disait qu'il y avait quasiment 3000 enfants à la rue en France. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe à Bordeaux et de comment ça évolue, notamment à Bordeaux, il y a de plus en plus d'enfants à la rue, Gérard ?
Oui, d'autant plus que le contexte, il y a un contexte aggravant, hein, qui s'est rajouté, c'est celui des JO et pas celui des JO en tant que tel, mais les effets du JO, les effets pervers, ce qu'un collectif appelle le revers de la médaille, un collectif parisien qui dénonce le fait que des milliers de personnes, des personnes seules, des enfants, des familles sont délocalisées, déplacées autoritairement de Paris pour être envoyées en province, dans ce qu'on appelle des SAS d'accueil régionaux, c'est l'expression de la préfecture et du ministère. Et de fait, ainsi, la situation à Bordeaux, qui était déjà pas bien fameuse, on rappelle qu'il y a quand même plus d'un millier de SDF à Bordeaux, avec la nuit de la solidarité, qu'on a pu les compter en janvier dernier, donc à peu près 500 personnes à la rue. La situation donc liée aux effets pervers des JO, tout ça fait que évidemment il y a plus d'enfants encore et leurs familles qui sont à la rue aujourd'hui à Bordeaux.
On sait pour terminer, Gérard, que la prise en charge des mineurs, c'est de la responsabilité du département normalement. La prise en charge des personnes à la rue, c'est celle de l'État, de la préfecture. Est-ce qu'il y a des réactions de leur côté ou des discussions entamées avec eux?
Alors, on rencontre assez régulièrement le département hein, qui dénonce lui aussi le fait, en fait, que l'hébergement d'urgence, clairement, c'est une fonction, une obligation d'État. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cette mobilisation, aujourd'hui, nous avons l'intention de demander une audience à la préfecture, une audience collective, avec des représentants des écoles mobilisées, avec des représentants de syndicats également, qui s'indiquent dans les écoles, pour leur demander, exiger que l'hébergement d'urgence, qui est de la responsabilité, je veux parler de l'État et de la préfecture, son représentant, soit une réalité.
Très bien, on peut donc vous rejoindre ce midi lors du rassemblement qui a lieu en ce moment même d'ailleurs, place du Colonel Rénal, c'est ça?
C'est à partir de 12h. À 12h, on fait une conférence de presse sur la place du Colonel Rénal. En effet, c'est devant la Galerie des Beaux-Arts, à côté dans le quartier de Mériadec, et c'est aussi devant une école mobilisée, Anatole France.
Très bien, et on peut sinon, pour avoir d'autres infos ou vous rejoindre, contacter RESF, Réseau Éducation Sans Frontières de Gironde. Merci beaucoup Gérard.
Merci à vous.
12h, quasiment 27 sur la clé des ondes, c'est toujours le plat de résistance. On continue avec nos différents sujets du jour. On va maintenant parler du festival Chahut, festival des arts de la parole qui débute demain pour son édition 2024. Chahut, dont la clé des ondes est une année de plus, une fois encore partenaire. On vous fera d'ailleurs entendre un peu au jour le jour, à la fois sur notre antenne dans ces émissions, dans le plat de résistance, dans le point chaud, et aussi sur notre site internet avec un film le spécial Chahut 2024 sur lequel on mettra donc nos interviews, nos reportages, des extraits aussi de tout ce qui va se passer durant ces 10 jours de festival avec toute une équipe mobilisée du côté de la clé des ondes, Aurore, Rémi, Octave, Léa, Xavier qui seront sur le pont pendant la durée de ce festival. Voilà, on commence tout de suite avec l'annonce de la première partie du programme de Chahut qui commence donc, je le dis, demain et ce qui va se passer demain, samedi et dimanche. On écoute ça tout de suite au micro de Aurore.
Je suis avec Romane de Chahut, et Chahut qui va commencer là, ce vendredi 7 juin. Et donc Romane, est-ce que tu peux nous dire, en gros déjà, dans un premier temps un peu, quels sont les axes cette année, puisque Chahut travaille toujours un petit peu autour de questions, quelles sont les dominantes? Et puis nous présenter la première partie de ce qui va se passer ce week-end.
Effectivement, comme tu le dis, Chahut est traversé par une thématique pour chaque édition. Et cette année, on s'est intéressé à ce qu'il fait norme, à ce qui fait norme ou non dans notre société, mais aussi dans notre intimité, ou aussi quand on fait société, comment sortir des normes, comment s'affranchir de ces normes-là. Et donc, on a choisi de faire venir des spectacles autour de cette question-là, et puis aussi de fabriquer des propositions autour de cette question du hors normes. Et donc le festival commence vendredi 7 juin avec un grand week-end autour de cette fabrique du hors normes, avec tout d'abord une grande journée au parc Pinson avec la fête de la Saint-Jean. Là, c'est une journée particulière puisqu'on sort de notre quartier d'origine, le quartier Saint-Michel, puisqu'on va dans le parc Pinson à la Benauge. On co-organise cette fête de la Saint-Jean avec le centre d'animation Bastide Benauge. Et c'est un événement gratuit à partir de 16h où on aura tout un tas d'animations et d'ateliers à partager en famille. Et puis, en fin de journée, on va avoir des interludes musicaux avec une fanfare et aussi un DJ, DJ Roger. Juste avant le spectacle, enfin plutôt devrais-je dire le ciné-concert du collectif La Méandre, qui propose un ciné-concert qui s'appelle Fantôme, qui est c'est une ode aux révolutions, c'est une ode aux révolutions poétiques. C'est un spectacle qui fait hyper écho en plus à l'actualité en ce moment où on a beaucoup de peuples qui se soulèvent et qui se révoltent contre des États totalitaires. Et là, cette révolution-là, elle est portée par un enfant qui s'appelle Fantôme. C'est un décor qui est mouvant, qui est projeté à la fois sur les façades des bâtiments du Parc Pinson et puis des murs et du mobilier qui va bouger. Deux musiciens sur le plateau et surtout la participation de 25 femmes, 25 complices qui travaillent depuis plusieurs semaines déjà pour venir et porter cette révolution au cœur du public. Donc on attend plus de, entre, je sais pas, 1000 à 2000 personnes vendredi soir à Pinson pour ouvrir cette 33e édition hors norme.
Et donc c'est gratuit cette soirée ?
Elle est entièrement gratuite, comme une grande partie en fait des propositions dans le Festival Chahut. On a 35 rendez-vous artistiques dans toute la ville et 27 propositions qui sont gratuites. La fête de la Saint-Jean, toutes les animations, les ateliers, le ciné-concert, la fanfare, le DJ, tout ça sera entièrement gratuit dans le Parc Pinson. Et puis aussi, si on a envie de venir dîner sous les étoiles, c'est possible. Soit on amène son petit pique-nique, soit on va profiter des mets proposés dans les food trucks qui sont présents dans le Parc Pinson. Il faut venir profiter de ce moment qui est un peu hors du temps, où en plus c'est hyper sympa de descendre et de croiser des voisins et des voisines du Parc Pinson, des gens qui sont habitués aussi à profiter du Festival Chahut. Il y aura toute l'équipe du festival, plein de bénévoles, et ça va être un super moment.
Oui, alors pour ce moment-là, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de réservation, les gens peuvent venir comme ça.
On vient comme on est, j'ai envie de dire ça. Le Parc Pinson est un endroit assez particulier parce qu'en fait, on ne connaît pas tant que ça. Si on n'est pas du quartier de la Benoge, on ne connaît pas ce parc puisqu'il est entre plusieurs bâtiments. Et il est ouvert, en fait. On peut passer dans ce parc sous les bâtiments. On peut y entrer par des grands portails aussi, des grandes grilles qui sont ouvertes. Et on vient vraiment comme on est, quand on veut, puisqu'on peut profiter de toutes les animations, des ateliers aussi qui sont proposés dans la journée à partir de 16h. On peut venir seulement à 19h, on peut venir à 22h pour le ciné-concert, on vient quand on veut.
D'accord. C'est juste pour prévenir les auditeurs que par contre, il y a des propositions. Alors là, on peut peut-être les renvoyer soit sur le site, soit sur les programmes qui sont en version papier, pour voir s'il faut réserver, si c'est gratuit, même si la majorité des spectacles sont gratuits. Des fois, il faut quand même réserver.
C'est juste vrai. Tout à fait. Pour nous, pour le festival, pour qu'on ait un peu une idée du nombre de personnes attendues. Il y a certains événements gratuits qui sont sur réservation quand même. Et ça, c'est noté sur notre site chahut.net, chahuts.net, parce qu'on a besoin de savoir combien on sera véritablement au moment du spectacle. Et puis, il y a d'autres propositions, comme la fête de la Saint-Jean, qui sont vraiment gratuites et ouvertes à tout le monde. Et on vient quand on veut et comme on peut.
Ok. Donc ça, Romane, c'est pour le vendredi soir. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe samedi 8 et dimanche 9, dans les grandes lignes, évidemment, parce qu'il se passe énormément de choses.
Énormément de choses dans ce festival hors normes, complètement. Donc les 8 et 9 juin, nous serons dans le marché des Douves pour la restitution du projet hors normes qu'on a tissé, créé, fabriqué tout au long de l'année avec notamment l'auteur et romancier Lancelot Hamelin. L'occasion est venue en fait de présenter ce projet pendant 2 jours en partenariat avec la Halle des Douves qui est notre hôte pour ces 2 jours-là. Autour de ce projet hors normes, il y a tout d'abord un projet, une enquête à part entière, une enquête immersive, un projet complètement inédit qui a été écrit par Lancelot Hamelin avec la complicité d'une vingtaine de complices, de groupes de collecteurs et collectrices de sons, d'images, de paroles, pour réaliser ce projet qui s'appelle « Géographie de la survie ». On invite en fait les spectateurs, le public, à venir résoudre une enquête au cœur du quartier Saint-Michel. J'en dirai pas trop non plus pour spoiler, parce que j'ai fait ce projet-là. C'est génial parce qu'en fait, on plonge dans les traits, on récupère les traits en fait d'un personnage qui s'appelle Sandra. Et on va être amené à résoudre une enquête au cœur du quartier Saint-Michel. Seulement avec, comme on va dire, comme arme, comme indice, des cartes qui sont disséminées dans le quartier. Un livret de pensée et une pièce de monnaie, puisqu'il va falloir se résoudre au hasard et lancer cette pièce pour suivre tel ou tel chemin dans le quartier Saint-Michel et résoudre en fait cette enquête pour dévoiler les secrets d'un homme qui est le père de Sandra et qui connaît aussi les secrets de la ville de Bordeaux. Ce projet, il a été créé donc par Lancelot Hamelin et aussi tout un tas de partenaires du champ médico-social et psychologique et psychiatrique de la ville de Bordeaux. Et autour de cette grande forme, on propose des instants pour écouter, palabrer, causer, pour un peu étirer notre pensée autour de cette question du hors-norme, puisqu'on est toujours dans cette fabrique du hors-norme. Donc on va avoir un plateau radio. Et tu es très bien placée pour en parler, donc je vais pas en parler plus en détail, mais on a un plateau radio hors norme, donc qui est en partenariat avec La Clé des Ondes et Radio Douve. Et on a deux causeries, l'une qui sera sur la thématique « Faut-il saboter les normes ?» en présence de Agnès Vilchez. Et puis le lendemain, le dimanche, la causerie sera sur le thème de « Faut-il romancer les marges ?» Et là, on sera en présence de Djemila Zenedi. Et autour de tout ça, on a aussi une exposition collective qui sera à voir, qui s'appelle « Cartographies affectives », qui sera disposée dans la coursive du marché des Douves. Et donc, elle sera ouverte les samedis et dimanches, et aussi visible du mercredi 12 au samedi 15 juin. Et là, on écoute aussi tout ce que le groupe de collecteuristes ont récolté sur le quartier Saint-Michel. Quels sont les endroits de la ville qui nous inspirent, nous transportent ou au contraire nous rebutent. Voilà le projet. D'accord. Et la journée du samedi se termine par un grand concert. Alors un grand concert, oui, allez, disons un concert hors norme, pourquoi pas, du groupe Jacuna Chimay, qui est porté par Marie Lanera, qu'on aime recevoir à Chahut depuis plusieurs éditions pour tous ses projets artistiques et musicaux dont elle fait partie. Elle sera accompagnée de Matt Bowers et ils font un concert donc à partir de 20h30 dans la rue des Douves. Et là, on est sur un concert qui sera gratuit, avec suivi d'un DJ set, à 20h30 rue des Douves, samedi 8 juin.
Très bien. Merci beaucoup, Romane.
Merci.
Et merci à Aurore de La Clé des Ondes pour cette interview-présentation du programme de Chahut qui commence donc demain. Et je vous le rappelle, on retrouve l'équipe de La Clé des Ondes pour ce plateau hors norme samedi à partir de 14h au marché des Douves. 12h38 dans le plat de Résistance. On va maintenant passer à notre habituelle rubrique du jeudi, c'est les clés des libertés, la chronique consacrée aux libertés avec aujourd'hui l'avocat Bruno Bouillet. Bonjour Bruno.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Je vais évoquer aujourd'hui le dernier dispositif de technosurveillance de masse mis en œuvre par le pouvoir en place, à savoir le drone, ou, comme l'appelle la loi du 24 janvier 2022 sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, la caméra aéroportée ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement, sans leur consentement, de l'image de personnes se trouvant dans un lieu public. Avant cette loi, le pouvoir en place utilisait déjà cette pratique du drone sans aucun contrôle préalable, ni donc aucun souci du respect des libertés individuelles ou publiques. Et il a donc fallu un premier recours de la Ligue des droits de l'homme et de la Quadrature du Net pour que le Conseil d'État se penche sur la question de la légalité des drones de surveillance et enjoigne à l'État de cesser sans délai de procéder aux mesures de surveillance par drone. Cette injonction était motivée par la possibilité de zoomer et d'identifier des personnes physiques que permet ce dispositif, qui porte évidemment une atteinte grave au droit au respect de la vie privée ou à la protection des données personnelles. Une deuxième décision de référé du 22 décembre 2020 avait encore interdit l'utilisation des drones et une décision de la Commission nationale informatique et liberté avait également enjoint au ministère de l'Intérieur de ne plus utiliser ces drones jusqu'à ce qu'un cadre normatif intervienne pour le traitement de données personnelles. C'est ce qui fut donc fait avec la loi du 24 janvier 2022. Cette loi permet de recourir à la captation, fixation, transmission et enregistrement sans leur consentement de l'image de personnes se trouvant dans un lieu public pour la répression des infractions de crimes ou délits ou pour rechercher une personne en fuite dans le cadre donc d'une enquête de police ou d'une information judiciaire. Dans ces hypothèses, l'autorisation des caméras aéroportées est donnée par un magistrat, soit le procureur de la République, soit un juge d'instruction. Cette loi a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, mais elle permet aussi l'usage de drones par les forces de l'ordre pour assurer des missions de prévention des atteintes à l'ordre public. On n'est donc plus dans une action judiciaire, mais purement préventive, sans qu'une infraction pénale ait été préalablement commise. C'est là le rôle du décret du 19 avril 2023 qui a prévu que les drones peuvent être utilisés, par exemple, dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, ou encore pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique et l'appui des personnels au sol en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, ou encore pour la régulation des flux de transport. Le risque d'une surveillance généralisée et discrétionnaire, voire discriminatoire, se pose donc avec acuité. Un recours a été engagé par l'Association de défense des libertés constitutionnelles, ADELICO, et la Quadrature du Net pour suspendre l'application de ce décret. Et ce recours a été rejeté au motif que ce dispositif était proportionné par sa limitation dans le temps et dans l'espace, par la limitation de la teneur et de la conservation des données enregistrées, mais aussi par le fait que l'autorisation du préfet devait être appréciée au cas par cas et que ladite autorisation devait être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge. Toutes ces exigences sont exactes sur le papier. Mais il reste évidemment à vérifier la pratique qui en sera faite par les préfets. Et surtout, si aucun recours n'est exercé par les citoyens contre les arrêtés préfectoraux autorisant la surveillance de tel quartier pendant telle période, eh bien alors aucun contrôle ne sera exercé sur la légalité du dispositif effectivement mis en œuvre. À titre d'information, la préfecture de Paris a autorisé l'usage des drones depuis le 19 avril 2023 par plus de 144 arrêtés qui permettent l'usage de ces drones ou d'hélicoptères de surveillance concernant les manifestations sportives, mais aussi les manifestations du 1er mai 2023, des manifestations de nature sociale ou bien revendicatives pour la Palestine, contre l'antisémitisme. Dans le cadre des révoltes urbaines après la mort de Naël fin juin 2023 ou encore pour le mouvement social des agriculteurs à la fin du mois de janvier 2024. À Bordeaux comme ailleurs, les arrêtés préfectoraux sont désormais courants pour autoriser la surveillance de l'espace public pour tel ou tel prétexte de prévention du maintien de l'ordre, ordre public, ordre social. C'est un mouvement général qui se met en place de nature législative et réglementaire, validé par les juges, qui tend à une normalisation de la surveillance de l'espace public. Ce processus est à l'œuvre, il devient familier, il va s'étendre à tout un chacun, en de plus en plus de lieux et d'occasions à notre quotidien.
Merci beaucoup Bruno Bouillet pour cette chronique à retrouver ainsi que toutes les autres sur notre site lesclésondes.fr à la rubrique des clés des libertés.
Σάκα κρεμασμένη από τον νόμο, νερό και πατατάκια για το δρόμο. Μη με θυμάσαι, δεν θα έχω όνομα δικό μου και ζωή. Είναι η μνήμη επικίνδυνη σιωπή. Μη με θυμάσαι. Στη τσέπη μια μικρή φωτογραφία της άλλης μου πατρίδας η ιστορία. Μη με θυμάσαι. Θα μεγαλώνω με σπασμένα ελληνικά. Θα μεγαλώνω με σπασμένα τα φτερά. Μη με θυμάσαι. Θα στέλνω καρτ ποστάρ στη μάνα μου. Θα λέω είμαι καλά, σας αγαπώ. Μη με θυμάσαι, έχω άλλο ουρανό από το δικό σου ουρανό. Εγώ έχω άλλο ουρανό. Γυάλινα μπουκάλια στη ζακέτα και δίπλα μου μια έγκυος γυναίκα. Μη με θυμάσαι. Θα έχει άλλο χρώμα το δικό μου το παιδί. Μόνο ένα κέρμα να μου ρίξει στο κουτί. Μη με θυμάσαι. Θα στέλνω καρτ ποστάλ στη μάνα μου. Θα λέω είμαι καλά, σας αγαπώ. Μη με θυμάσαι, έχω άλλο ουρανό από το δικό σου ουρανό. Έχω άλλο ουρανό. Θα στέλνω καρτ ποστάλ στη μάνα μου. Θα λέω είμαι καλά, σας αγαπώ. Μη με θυμάσαι, έχω άλλο ουρανό από το δικό σου ουρανό. Εγώ έχω άλλο ουρανό. Μη με θυμάσαι, μη με θυμάσαι.
C'était la chanson « Carte postale » de Yanis Kotsiras, une chanson écrite après la crise économique sur les Grecs obligés d'aller émigrer à l'étranger pour travailler, alors qu'on pensait que ce genre de choses appartenait au passé. Yanis Kotsiras y sera à l'honneur ce soir dans l'émission Yassas, l'émission de musique grecque, tous les jeudis soirs sur la clé des ondes à partir de 20h. Voilà, il s'agit d'une rediffusion. On va terminer notre plat de résistance ici et tout de suite passer à une petite compile de l'émission Acétone et des derniers invités de l'émission Acétone de ces dernières semaines. Acétone a reçu tout un tas de représentants, représentantes de partis de gauche pour parler des élections européennes. On vous propose tout de suite d'entendre voilà, l'essentiel de ce qui s'y est dit de ces différents partis de gauche, suivi de la diffusion de l'émission Acétone d'hier après-midi. Voilà. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de la Clé des Ondes et on termine en vous disant qu'à 18h, il y aura le chemin des transitions qui sera consacré à l'eau et en particulier à l'eau de la Garonne. 20h donc Yassas et 21h le Jazz Athletic Club pardon et 22h des Colasson à Colasson, la playlist romantique d'Amérique du Sud. Voilà, bonne journée à l'écoute de notre antenne. Tout de suite à Acétone, la rediff.
Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.1 ce mercredi 15 mai 2024. Vous écoutez l'émission Acétone qui débute à l'instant. Nous vous proposons aujourd'hui notre première table politique sur les élections européennes avec cette fois-ci des représentants d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste de Gironde. Nous avons notamment dans le studio Monsieur Romain Dost qui est co-secrétaire régional adjoint d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Romain.
Bonjour.
À côté de toi, tu as Franck Marsal. Bonjour Franck, toi bonjour. Tu es membre du conseil départemental du PCF Gironde, on est bien d'accord?
On est d'accord.
Le premier thème retenu sur cette première table politique, c'est bien évidemment les élections qui auront lieu le 9 juin 2024, mais au-delà de ça, on va parler quand même des institutions européennes. Jean-Luc, tu nous lis le premier papier?
Alors, européenne, un vote pour quoi faire? De nombreux textes à l'agenda du Parlement européen, souvent les plus progressistes, ont été détricotés ces derniers mois sous la pression d'État, France et Allemagne en tête. Faut-il désespérer face à la faiblesse politique de l'hémicycle?
Alors, faiblesse politique de l'hémicycle, mais pour les auditeurs, quand même dire que le Parlement européen est élu, que la Commission européenne, parce que les institutions européennes sont quand même assez larges, hein, il y a le Conseil européen qui regroupe les présidents de chaque État, vous avez le Conseil des gouverneurs, vous avez le Parlement européen, et vous avez bien évidemment la Commission européenne, donc Commission européenne qui est quand même non élue, donc effectivement, la question essentielle, c'est la faiblesse politique de l'hémicycle, mais au-delà, c'est aussi la démocratie. Parce que le Parlement, il n'y a que le Parlement européen qui est élu. Romain, tu réagis là-dessus?
Ben oui, alors sa faiblesse, le Parlement, malgré tout, on s'aperçoit que le Parlement est capable de sortir de belles choses. Si on pense récemment à ce qui a pu sortir sur la restauration de la nature, une proposition sur laquelle s'est beaucoup engagée notre candidate écologiste, Marie Toussaint, ça a été un vrai combat d'arrache-pied. On pourra en relativiser hein, sur ce qu'est devenu ce texte, mais enfin, c'est quand même un extrêmement un beau texte qui vise, je le rappelle, à restaurer au moins 30% des habitats en mauvais état d'ici 2030, 60% en 2040, 90% d'ici 2050. Ça veut dire quand même plus de forêts, de prairies, de zones humides, de rivières qui soient restaurées à l'échelle de l'Europe. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement ambitieux. Et seule, finalement, une institution européenne peut faire ça. On n'imaginerait pas que chaque État fasse ça dans son coin avec une politique aussi ambitieuse. Donc je pense que c'est quand même important de rappeler l'importance du projet européen et du fonctionnement européen qui est quand même capable de sortir de belles choses. Cette loi de la restauration de la nature, notamment du fait d'une campagne agressive hein, de certains partis, notamment du PPE, il faut le dire, où on a assisté d'ailleurs à une forme d'harmonisation des droites assez horrible. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de la dimension européenne.
Ok, Franck, dis-moi, ces institutions européennes sont-elles des outils pertinents? Comment tu le vois, toi, pour répondre, répondre aux besoins des citoyens européens?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que le Parti communiste est, je pense, le seul parti de France qui se soit opposé à la totalité des traités européens. Non pas qu'on soit contre l'Europe, qu'on soit contre même, je dirais, l'international. On a toujours été un parti internationaliste, mais on a toujours considéré que les bases sur lesquelles ces traités étaient écrits étaient des bases, d'une part, libérales et étaient des bases, d'autre part, qui n'étaient pas démocrates. Mais il y a un autre problème qui se pose et qui est fondamental pour nous et qui justifie notre orientation, qui est de dire, nous, on est pour une Europe de coopération entre nations souveraines. C'est que le cadre national, c'est le cadre dans lequel la démocratie s'exerce, parce que la démocratie, ça n'est pas qu'une histoire d'élection. Pour avoir une élection démocratique, il faut avoir une culture politique partagée.
Jean-Luc.
Alors oui, donc j'aurais une question à poser à nos deux représentants, mais quelles seraient pour vous les réformes prioritaires, voire urgentes, à engager pour justement donner plus de démocratie aux institutions européennes?
Moi j'en vois là spontanément moins deux. La première, c'est le renforcement du caractère parlementaire, du fonctionnement parlementaire, avec notamment justement un fonctionnement bicaméral qui permettrait justement une meilleure représentation et un renforcement justement démocratique du Parlement. Après, il y a autre chose, c'est la place que les États prennent. Je parlais de la restauration de la nature. On a vu que finalement, les États ont pu aussi outrepasser les règles qui étaient fixées à l'échelle européenne. Donc, il y a à mieux encadrer aussi le pouvoir des États et également celui des lobbies.
C'est notre deuxième table politique pour ces élections européennes qui auront lieu le 9 juin 2024. Nous avons cette fois-ci pour cette deuxième table des représentants de France Insoumise. Bonjour Cécilia.
Bonjour Joël.
Voilà, toi tu te présentes sur la liste de la personne qui mène la liste de France Insoumise.
Alors je suis sur la liste de Manon Aubry, donc je ne suis pas forcément une place éligible, mais je mène le combat avec eux.
Et en face de toi, tu as deux camarades de Révolution Permanente. Il y a Yann. Bonjour Yann.
Bonjour.
Voilà, alors vous ne présentez pas de liste, tu m'as dit ?
Non, bien sûr, mais on a toujours quelque chose à dire.
Mais je me doute, c'est pour ça que je vous ai invité. Et tu es venu avec un de tes camarades, c'est Ulysse. Bonjour Ulysse.
Bonjour.
Bonjour à toi et bienvenue à La Clé des Ondes si c'est ta première. Allez, le premier point abordé sur cette deuxième table politique, c'est bien évidemment les institutions européennes. Un quart des eurodéputés augmentent leur salaire avec des activités parallèles.
Dans un rapport, l'ONG Transparency International constate que 26% des eurodéputés bénéficient de revenus liés à des activités parallèles à leur mandat pour 47 000 euros par an en moyenne. Ces eurodéputés sont principalement situés à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. À un mois des élections européennes, on imagine que certains ou certaines eurodéputés, candidates à leur propre succession, se seraient bien passés d'une telle publication. Dans un rapport dévoilé ce lundi 6 mai 2024, l'ONG Transparency International a compilé, à partir de leur dernière déclaration d'intérêt privé, les rémunérations perçues par les membres du Parlement européen grâce à des activités exercées en parallèle de leur mandat.
Alors Cécilia, est-ce que c'est que les rétributions de salaire d'un député européen ne sont pas suffisantes ?
Il semblerait que pour certains députés, ce soit pas suffisant pour vivre. Donc certains ont tendance effectivement à percevoir des rémunérations annexes. Récemment, Manon Aubry a dénoncé justement tout ce système de rémunération annexe et s'est engagée et a engagé toute la liste des candidats qui sont derrière elle à ne pas percevoir, à s'engager à ne pas percevoir de rémunération annexe et à ne pas être sous la coupe, j'ai envie de dire, des lobbyistes qui sont très nombreux au Parlement européen. Manon disait qu'il y en avait à peu près 70 par député qui traînait dans les couloirs, ce qui est énorme. Et effectivement, dans les rémunérations annexes, il y a des rémunérations d'entreprise, il y a des ventes de livres, comme on l'a vu, c'est défendu Glucksmann là-dessus. Mais effectivement, c'est, je pense, un peu indécent de se dire qu'on n'a pas suffisamment avec un revenu de député pour vivre.
Et ce revenu de député est de combien justement ? Vous le savez, tu le connais Yann ?
Il est autour des 7000 euros.
7000 euros, c'est quand même pas mal hein, pour vivre.
C'est très
quand
très
tu,
bien.
Quand tu sais qu'il y a des gens qui n'ont rien ou qui... Bon, dis-moi Yann, ces institutions européennes, est-ce que d'après toi elles sont suffisantes pour répondre aux besoins des citoyens européens ?
Ouais. Moi je pense que cette question même qui a été mise par rapport au salaire, etc., ça montre totalement la déconnexion de ces institutions avec celle que vivent la majorité des travailleurs, des travailleuses, de la jeunesse, et que cette question même, ça montre vraiment un décalage qui est très important, et même cette question du salaire, elle est importante. Enfin, je pense que on voit que ça montre que l'Union Européenne, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au service des grands capitalistes, des lobbies, et par ailleurs, c'est très connu, le pouvoir immense qu'ils ont dans ces institutions de pression, etc. Et c'est pour ça même que par rapport à ces questions de salaire en plus ou quoi, on aura beau l'interdire ou quoi, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement présent dans cette institution.
Aux dernières élections, je crois que vous aviez, enfin Révolution Permanente, avait appelé à voter lutte ouvrière, il me semble, pour les prochaines élections, là, du 9 mai. Du 9 juin, vous appelez à voter... pour une liste en particulier.
Pour l'instant, on n'a pas encore fait d'appel officiel communiqué sur quelle liste on soutiendrait. Après, nous, on pense en effet que c'est important de si nous, on n'a pas pu se présenter, de malgré tout soutenir les listes d'extrême gauche qui voilà porte une voix en indépendance des partis institutionnels, des classes dominantes, même si en effet on trouve dommage de ne pas avoir pu présenter une candidature commune. Donc voilà, on va sûrement communiquer dans ce sens dans les semaines qui viennent. Mmh.
Cécilia, ça vous préoccupe, la France Insoumise, ou pas?
Oui, ça préoccupe Manon Aubry. Ça nous préoccupe beaucoup, c'est pour ça qu'on a vraiment axé la toute première partie de campagne sur aller chercher les électeurs, donc avec beaucoup de porte-à-porte, beaucoup d'aide aux inscriptions sur les listes électorales, et on est très content de voir que ça a fonctionné, qu'on a quasiment dans beaucoup de villes, et notamment des quartiers populaires, une augmentation de 10% du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que par rapport aux élections européennes précédentes, il y a un regain d'intérêt pour ces élections-là, alors certainement lié à un contexte actuel de la guerre en Ukraine et en Palestine. Mais on voit que les personnes s'intéressent davantage par rapport aux élections précédentes, et on a été les chercher quasiment toquer à toutes les portes de tous les quartiers populaires pour les intéresser, parce que justement c'est la seule fois où la voix de n'importe qui compte autant que la voix d'un raciste ou d'un riche, par exemple.
Ok, et vous avez fait en porte-à-porte la banlieue bordelaise aussi ?
On a fait les Aubiers, ce qui intéresse les gens, notamment, donc nous on a fait les Aubiers, on a fait la Cité du Midi à Florac, on a fait Dravemont, on a fait, je ne sais plus, à Force-Lormont, ce nom également. La première préoccupation des gens, c'est le prix de l'électricité, le prix des charges qui augmente, le prix de l'alimentation qui augmente, c'est le fait pour certains de trouver un logement, c'est d'avoir la possibilité de voir un peu l'avenir d'une meilleure façon. Et ils sont effectivement préoccupés par la guerre qui se rapproche en Europe et par la guerre qu'il y a en Moyen-Orient.
À deux semaines des élections, la question des alliances avec l'extrême droite se fait de plus en plus pressante. À Bruxelles, les absents n'ont manifestement pas toujours tort. Aucun des deux groupes d'extrême droite au Parlement n'avait envoyé de représentante au débat organisé jeudi 23 mai dans l'hémicycle européen. Mais tout le monde n'a parlé que d'eux, ou presque. Durant près de deux heures, les cinq chefs de file des partis européens en lice pour les élections du 9 juin ont débattu de manière feutrée.